La revue de presse. La revue de presse nous est présentée par les premières générales 2 du lycée Marcel Gimond. À mes côtés aujourd'hui, Mona, Eloane, Aimé, Lola, Lucie, Sarah, Nolan, Marie, Océane et Livio. Ils sont avec nous dans les studios d'Info RC depuis 8h30 ce matin. Ils ont épluché la presse, ils l'ont résumé et ils nous proposent cette revue de presse en direct. Au sommaire, nous parlerons de ce qui se passe à l'international, sur le plan national et local, et nous finirons par la rubrique sportive. Reste avec nous à l'écoute de cette revue de presse. On débute cette revue de presse avec l'un des titres de la presse internationale aujourd'hui, comment faire face aux futures pandémies. Et c'est Mona qui nous en parle.
Le journal L'Humanité traite le sujet des futures pandémies et comment s'y préparer après avoir traversé la pandémie du Covid. La crise sanitaire a causé beaucoup de pertes humaines, matérielles et a causé une diminution des richesses, 26 millions de morts à l'échelle planétaire et 12 500 milliards de dollars de pertes de PIB. Les chercheurs supposent que la planète peut être touchée dans le futur par une pandémie peut-être plus grave. Sur les 20 dernières années, une dizaine a déjà émergé comme SARS, MERS, Monkeypox et encore plein d'autres. Il faut donc tirer une leçon de cette pandémie. Il existe plein de stratégies utilisées aux quatre coins de la planète pour y répondre. La plus efficace est basée sur l'anticipation, ce que les chercheurs résument en « agir tôt et fort ». Au Danemark, qui a opté pour cette stratégie, fait figure d'exception et la situation est restée sous contrôle. En mars 2020, la première ministre danoise avait annoncé qu'ils allaient mettre en place des mesures alors que le pays ne comptait qu'une dizaine d'hospitalisations. Plus on prend des mesures tôt, plus on limite la circulation du virus, résume un chercheur. Cette stratégie permet d'éprouver l'efficacité des mesures et de les faire changer avec l'évolution de l'épidémie. Le Danemark s'est aussi distingué dans la vaccination avec une majorité de personnes âgées. Ça passe par un renforcement des systèmes de santé, conclut le journal L'Humanité.
On enchaîne avec les dernières annonces de Macron concernant la guerre en Ukraine avec Eloane et Aimé.
Hier soir, le président Macron s'est adressé aux Français au sujet de la politique française quant à la guerre opposant la Russie à l'Ukraine. Longtemps résolu à réfréner les ardeurs impérialistes de la Russie par la voie diplomatique, Emmanuel Macron a changé de cap en durcissant le ton face au Kremlin. Il promeut désormais la nécessité d'un engagement supplémentaire de la France et de l'Europe dans le conflit. Invité aux 20h de TF1 et de France 2, hier soir, jeudi 14 mars, Emmanuel Macron s'est positionné en chef de guerre. Il a déclaré « La guerre est sur le sol européen » et « Si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait parce que nous n'aurions plus de sécurité en Europe. Le Figaro et Libération relaient la notion d'ambiguïté stratégique, version non nucléaire de la dissuasion censée faire réfléchir Vladimir Poutine. Cette stratégie consiste à n'exclure aucune possibilité d'intervention afin que le Kremlin ne connaisse pas la ligne rouge de ses adversaires.
Cependant, l'éditorialiste du Figaro souligne que la France doit encore convaincre les 27 d'adopter cette nouvelle stratégie guerrière. Le journal Libération ajoute que le risque est grand pour le chef de l'État concernant les prochaines élections en France. Les Français pourraient ne pas comprendre que l'on verse des milliards à l'Ukraine alors que l'on s'apprête, en France, à couper les dépenses, notamment sociales. Le journal Le Monde, quant à lui, évoque les arrière-pensées électorales du discours. À 3 mois des élections européennes, est-ce une stratégie pour décrédibiliser le Rassemblement national ? Accusé de complaisance avec la Russie. Le président rencontre aujourd'hui Olaf Scholz, le chancelier allemand, dans l'optique de l'amener à partager son point de vue et d'enrôler les 27 à sa suite.
Les élections en Russie avec Lola.
Le premier tour des élections russes débute aujourd'hui dans un climat tendu. D'abord, Poutine veut faire de ces élections une démonstration de force qui vise à montrer l'unité de la Russie et le soutien de sa population. D'après l'Humanité, des campagnes de pub sont affichées un peu partout en Russie pour inciter les citoyens à voter. Et, selon le journal Le Monde, le président viserait à obtenir 80% des voix, soit 3% de plus qu'en 2018, son dernier mandat. Son objectif étant toujours de montrer à l'Europe la force russe à travers la grandeur des votes en sa faveur. D'un autre côté, le titre de l'article du Monde montre bien que l'élection présidentielle est taillée sur mesure. L'absence de candidats et de campagne prouve bien qu'il s'agit d'une simple formalité pour Poutine, d'une élection déguisée.
Lucie nous parle maintenant de la plateforme TikTok qui inquiète les USA.
Après 2 ans de tentatives des États-Unis pour interdire TikTok, la Chambre des représentants a voté ce mercredi 13 mars pour l'interdiction de l'application si celle-ci n'était pas rachetée par un opérateur non chinois dans les 6 prochains mois. Joe Biden est favorable à cette loi et affirme que cette entreprise ainsi que ses données devraient appartenir aux États-Unis. En effet, cette application, qui compte plus de 170 millions d'utilisateurs, est soumise aux lois chinoises. Elle collecte des renseignements sur ses utilisateurs et permet aux autorités chinoises d'avoir accès à leurs données, et cela inquiète le gouvernement américain. Les applications chinoises comme TikTok, Temu et Shein sont les plus téléchargées aux États-Unis, et si elles connaissent un tel succès, c'est grâce aux immenses dépenses de la Chine pour les faire connaître et grâce à la vente de produits à très bas coût, mais cela a des conséquences sur les droits humains et environnementaux. Enfin, l'interdiction de TikTok permettrait de susciter des initiatives similaires contre d'autres plateformes chinoises, mais cela irait à l'encontre de la liberté d'expression et ça a un impact sur l'économie de 7 millions de petites entreprises.
Dans la presse nationale aujourd'hui, le marché lucratif du véganisme. Sarah.
Le journal Aujourd'hui en France s'intéresse de ce jour à la question de l'alimentation et en particulier du business vegan. En effet, les grandes marques passent à ce business et multiplient les nouveautés végétales en rayon, visant à toucher tous ceux qui veulent réduire leur consommation de produits carnés. Car même si celui-ci reste encore un marché limité, il augmente chaque année, évalué à 425,7 millions d'euros en 2022, soit une hausse de 3%, les produits laitiers végétaux représentent 45% des ventes et le marché, quant à lui, représente déjà 1,911 milliards d'euros. Celui-ci n'est pas prêt de s'arrêter vu la hausse du nombre de personnes voulant devenir vegan. Par exemple, on connaît tous la vache qui rit. Eh bien, la marque Bell a décidé d'en faire une vache qui rit vegan. Les pays anglo-saxons ont été choisis pour accueillir en magasin les premières boîtes de vache qui rit sans matière d'origine animale. Elle est fabriquée à base d'amandes, d'ail et de fines herbes. La concevoir a été un vrai défi pour les chercheurs de Bell. Ils avaient de nombreuses exigences esthétiques et ont essayé de recréer à l'identique l'originel. Portions qui brillent, pas collantes, au papier, assez solides pour rester dans la boîte, etc. La marque Bell, mais également les marques comme Babybel, Kiri ou encore Boursin, ne prennent pas le marché du végétal à la légère. Ils possèdent un objectif, vendre 50% de produits laitiers et 50% de produits végétaux et alternatifs au fromage. Une vraie révolution, conclut le journal Aujourd'hui en France.
On enchaîne avec une expérimentation pour tester le port des uniformes dans les écoles, des uniformes qui seront fabriqués dans la Drôme.
Le Dauphiné Libéré titre « Les uniformes des élèves français seront drômois ». Une expérimentation nationale a été mise en place par le ministère de l'Éducation nationale pour tester le port des uniformes dans les écoles. Et l'atelier de confection de l'association d'insertion Valence Service a été choisi pour assurer le montage d'une partie des uniformes destinés à certains élèves de la région. 5 établissements vont participer à cette expérimentation nationale. Au total, 2300 pièces vont sortir de l'atelier situé à Portes-les-Valence. Parmi ces 2300 pièces, on compte 800 sweatshirts et 1500 polos unisex bleu marine. Actuellement, elles sont une douzaine de couturières à travailler dans cet atelier. Le but de cette association est de proposer des activités de mise en situation pour permettre aux personnes au chômage d'avoir un contrat de travail et de les aider dans leur accès de retour à l'emploi. Les personnes salariées à Valence Service ont un contrat de travail qui va de 4 à 24 mois avec un parcours personnalisé. Elles sont accompagnées par des conseillers en insertion professionnelle qui vérifient leurs compétences de travail.
Merci Nolan. Je passe la parole maintenant à Marie qui nous présente le plan canicule.
Le journal La Tribune nous présente le plan canicule en faveur des aînés. Une réunion plénière du conseil départemental de l'Ardèche a eu lieu le vendredi 8 mars. Ils en ont profité pour présenter le plan canicule. Ce plan a pour but de court-circuiter les effets dramatiques des chaleurs de l'été. Il a d'ailleurs été adopté à l'unanimité. D'après Oliviane Amran, présidente du conseil départemental d'Ardèche, en Ardèche, 90% des plus de 60 ans vivent à domicile et 40% des plus de 75 ans sont isolés. Le plan canicule aura pour premier objectif de mettre en place une cellule de vigilance. Une équipe de contractuels aura alors pour mission de prendre contact avec les personnes fragiles pour leur venir en aide pendant les fortes chaleurs de la canicule. On a 279 communes en Ardèche qui n'ont pas de CCAS. Les équipes municipales font le travail, mais ils n'ont pas le service dédié pour la population. Ce sont ces communes-là qui seront notre cœur de cible, explique Sylvie Gaucher. C'est là que le dispositif prend son sens, offrir de l'aide aux communes rurales qui n'ont pas les moyens de répondre aux alertes. Enfin, le plan proposera la mise en disposition de lieux départementaux rafraîchissants. Pour les personnes pouvant se déplacer d'elles-mêmes, 21 sites départementaux seront ouverts au public en quête de fraîcheur, comme par exemple le musée Halle à Alba-la-Romaine. La liste des lieux est d'ailleurs disponible sur le site du département. La cellule vigilance sera ouverte dès le 15 mai et jusqu'au 15 septembre.
Et on continue avec les conséquences du réchauffement climatique, la tempête. C'est Océane qui prend la parole maintenant.
Parlons à présent du gros titre de la Tribune, la tempête meurtrière Monica qui a touché le sud du pays le week-end dernier. Le bilan humain se montre très lourd. En Ardèche, dans l'Hérault, en passant par le Gard, 7 personnes sont décédées en 2 jours, dont un septuagénaire et un père de famille avec ses 2 enfants. Un compte-rendu qui est plus qu'inhabituel. Le bilan des dégâts matériels est de même très catastrophique. À Saint-Martin d'Ardèche, la violente crue a endommagé les restaurants qui préparaient alors l'ouverture de leur saison. Dans l'ensemble du département, de nombreuses routes ont dû fermer à cause de la montée des eaux. Et à Montselgue, un bilan désastreux de 2 maisons emportées par la boue rend de plus en plus perplexes les habitants du village. Ils craignent alors, selon le Dauphiné Libéré, que le hameau dépérisse. L'inquiétude fait remonter les plus vieux conflits et les hypothèses sur la cause de l'éboulement fusent. En tout cas, pour les habitants, cet événement n'est pas une surprise.
Et pour terminer cette revue de presse présentée par les premières générales 2 du lycée Marcel Gimond, la rubrique sportive, et c'est Livio.
Côté football, le Dauphiné Libéré déclare « Deschamps mise sur la continuité ». En effet, le sélectionneur français a dévoilé sa liste pour affronter l'Allemagne et le Chili les 23 et 26 mars prochains. Le groupe change très peu par rapport au dernier match de septembre. Le jeune espoir de 17 ans, Warren Zaïre-Emery, a toujours la confiance de son sélectionneur après des performances prometteuses avec le PSG. On aurait également pu s'attendre à la première cape de Bradley Barcola, en bleu, après la blessure du taulier Kingsley Coman. Mais c'est vers Moussa Diaby que s'est tourné Deschamps, qui déclare qu'il lui semble logique de le rappeler, vu son expérience en bleu et ses performances actuelles. En Coupe d'Europe, le LOSC et l'OM se sont qualifiés pour le prochain tour hier soir. Les Olympiens ne sont pas passés loin de l'élimination, mais un but de dernier instant du latéral droit Jonathan Klaus vient sceller la victoire des Phocéens. De son côté, le LOSC sécurise avec un match nul 1-1 en Ligue Europa Conférence, après un match aller remporté 3-0 face aux Autrichiens du SK Sturm Graz.
Et je remercie donc les 10 jeunes du lycée Marcel Gimond qui sont avec nous ce matin pour présenter cette revue de presse à l'occasion de la semaine de la presse. Juste, je vous prends un petit peu à chaud comme ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet exercice ?
Compliqué, il y a plein de journaux qui traitent de la même chose. Et puis, il n'y a pas forcément beaucoup d'analyses compréhensibles et opposables directement.
C'est un exercice constructif. Ça nous a permis de savoir comment lire un journal et réussir à trier l'information pour ensuite prendre les parties essentielles et les retransmettre du coup à la radio.
Merci Nolan.
C'est stressant de passer devant un micro comme ça.
C'est vrai.
Le plus dur, c'est pas tant de décortiquer l'information et de faire un texte, mais c'est aussi de le lire correctement et de mettre l'intonation là où il faut.
Encore merci donc à vous 10 pour cette revue de presse en direct. On retrouvera le reste de la classe mardi prochain pour le même exercice, une nouvelle revue de presse qui sera présentée à 11h sur notre antenne en direct. Je laisse maintenant Sage comme des sauvages prendre la suite. La chanson qu'on va écouter s'appelle Garçon.
Garçon, tu es bien mal habillé.